Attention, attention. Un télégramme du front de Malabar. Nos forces ont déclenché l'offensive dans le sud de l'Inde. L'armée eurasienne est anéantie. Pour célébrer la victoire, répétons tous ensemble les slogans de notre parti. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Vive Big Brother!
Le 4 avril 1984, 6 heures du matin. Je commence mon journal. Je l'écris pour ceux qui ne sont pas nés. De l'âge, de l'uniformité, de l'âge de la solitude, de l'âge où le crime de pensée entraîne la mort, je salue le passé et le futur. Je tourne le dos à mon télécran qui capte tous les sons émis au-dessus d'un chuchotement et enregistre tous les mouvements accomplis dans son champ de vision. Il en reçoit et transmet simultanément. On ne peut savoir combien de fois et suivant quel plan la police de la pensée se branche sur votre ligne. Elle peut le faire chaque fois qu'elle le désire. Il n'y a aucun moyen de débrancher l'appareil.
Nous avons la joie de vous annoncer que les prévisions du 9e plan ont été dépassées. Notamment en ce qui concerne la production de la fonte. D'autre part, le ministère de l'Abondance a décidé de réduire momentanément les rations de chocolat. Dans quelques instants, vous pourrez assister aux 2 minutes de haine quotidienne.
La liberté, c'est de pouvoir dire que 2 et 2 font 4. Lorsque cela est accordé, le reste suit. Le parti finira par annoncer que 2 et 2 font 5, et il faudra le croire. S'il y a un espoir, il réside chez les prolétaires, mais ils ne se révolteront que lorsqu'ils seront devenus conscients. Selon le parti, les prolétaires sont des inférieurs qui doivent être tenus en état de dépendance comme les animaux. Ils naissent et poussent dans la rue, ils vont au travail à partir de 12 ans, ils vivent dans des quartiers sordides, peints en brun, et se saoulent dans des cafés crasseux. Le puritanisme sexuel du parti ne l'aurait pas imposé. Et on n'essaie pas de les endoctriner. Le parti dit « Les prolétaires et les animaux sont libres. » Hier soir, vers 8 heures, je suis entré dans un café de prolétaires. Il est imprudent de se montrer en des lieux pareils. Si la police de la pensée la prenait, cela suffirait pour attirer l'attention sur moi. Mais, comme je pense que le seul espoir réside chez les prolétaires,
parle assez clairement, non? Je veux un verre d'une pinte.
Qu'est-ce que c'est une pinte?
Une pinte, c'est un demi-quart. Il y a 4 quarts dans un gallon. La prochaine fois, il faudra vous apprendre l'ABCD.
J'ai jamais entendu parler de ça. Litre et demi-litre, c'est tout ce que nous servons.
Je veux une pinte. Nous n'avions pas de ces bons sang de litre quand j'étais jeune homme.
Ah, quand vous étiez jeune, nous vivions tous dans les arbres.
Je vous paie un verre.
Ça, c'est pareil. Une pinte. Une pinte de Wallop.
Vous avez dû voir de grands changements depuis que vous étiez jeune.
La bière était meilleure. Et moi, je sais. Quand j'étais jeune, la bière blonde, nous l'appelions Wallop. Elle coûtait 4 sous la pinte. C'était avant la guerre, bien sûr.
Quelle guerre?
Peu importe, toutes les guerres sont pareilles. À la vôtre.
À la vôtre. Vous êtes beaucoup plus vieux que moi.
J'étais un homme fait quand vous êtes né.
Vous pouvez donc vous rappeler comment on vivait avant la Révolution, hein? Ben, les gens de mon âge ne connaissent rien de ce temps-là. Nous ne pouvons nous renseigner que par les livres, mais ce que disent les livres n'est pas forcément vrai. On raconte, par exemple, qu'avant la Révolution, ici à Londres, les travailleurs n'avaient rien à manger. Il paraît qu'ils travaillaient 12 heures par jour et qu'ils couchaient à 10 dans une pièce. On dit qu'à la même époque, il y avait un tout petit nombre de capitalistes qui étaient riches et puissants, qui possédaient tout, vivaient dans de grandes maisons somptueuses avec des trentaines de serviteurs, se promenaient en automobile, buvaient du champagne, portaient des hautes formes.
Hautes formes. C'est drôle que vous m'en parliez. J'y pensais justement hier, je sais pas pourquoi. La dernière fois que je portais un haut de forme, c'était l'enterrement de ma sœur. Et c'était... Non, je pourrais pas vous dire la date, mais ça devait être il y a 50 ans.
Oui, oui.
Bien sûr, on l'avait loué pour la circonstance.
Oui, mais enfin, les hauts de forme, c'est un détail. Mais il paraît que ces capitalistes et quelques hommes de loi et quelques prêtres aussi étaient les seigneurs de la terre. Vous, les gens simples, vous étiez leurs esclaves. Ils pouvaient faire de vous ce qu'ils voulaient, vous embarquer pour le Canada comme des bestiaux, coucher avec vos filles, vous faire fouetter avec quelque chose qu'on appelait le chat à 9 queues. Ces capitalistes ne se déplaçaient qu'entourés d'une bande de laquais.
Laquais. Encore un mot que j'ai pas entendu depuis bien longtemps. Laquais. Ah, ça me ramène en arrière, ouais. Quelquefois, j'allais à Hyde Park, le dimanche après-midi. Entendre des types parler, l'armée du salut, les catholiques romains, les indiens. Il y en avait toutes sortes. Et il y avait un type, alors, on ne peut pas vous dire son nom, mais un vrai bon orateur, un art, ça. Il ne mâchait pas ses mots. Laquais, qu'il disait, laquais de la bourgeoisie, valet de la classe dirigeante, parasite aussi était un de ses mots. Et hier, il les appelait des hier. Vous comprenez? Il parlait des membres. Tu pars du travailliste.
Oui, mais ce que je voudrais savoir est ceci. Pensez-vous avoir plus de liberté maintenant qu'à cette époque? Êtes-vous davantage traité comme un être humain? Dans l'ancien temps, les gens riches, les dirigeants...
La chambre des lords.
Oui. Est-ce vrai que vous deviez les appeler monseigneur et enlever votre casquette quand vous les croisiez?
Ouais, ils aimaient qu'on les salue. Ça montrait le respect. J'aimais pas ça, moi. Mais je le faisais souvent, il le fallait bien.
Oui. En 1925, par exemple, vous étiez déjà un homme. La vie était-elle meilleure en 1925 que maintenant? Ou était-elle pire? Hein? Enfin, vous, si vous pouviez choisir, préféreriez-vous vivre alors ou maintenant?
Je sais ce que vous attendez de moi. Vous voudriez m'entendre dire que j'aimerais beaucoup redevenir jeune. Beaucoup de gens diraient qu'ils préféraient être jeunes. Quand on arrive à mon âge, on est toujours malade. J'ai une vilaine chose au pied qui me fait souffrir. Et ma vessie, voilà. C'est terrible. Je me lève 6 ou 7 fois chaque nuit. Mais il y a de grands avantages à être un vieillard. Pas de truc de femme. Et ça c'est un avantage.
Oui.
Un grand avantage. Quant au resto.
Oui.
Bon. Je sais pas. Si vous voulez vraiment faire de la conversation, allez voir le type d'en face. Celui qui vend des vieilleries. Il sait parler, lui.
Ah oui. Merci pour le conseil. J'irai.
Tenez.
Vous êtes bien gentil. Un peu bizarre, mais bien gentil.
Bonjour.
Bonjour. Désirez-vous quelque chose en particulier? Ou voulez-vous simplement jeter un coup d'œil?
Je suis entré au hasard. Je n'ai besoin de rien.
Tant mieux. Car je ne pourrais vous satisfaire, je le crains. Vous voyez, mon magasin est presque vide. De vous à moi, le commerce d'antiquité est mort. Plus aucune demande et plus de marchandises. Meubles, porcelaine, verre, tout s'est cassé au fur et à mesure. Et la marchandise en métal a été fondue en grande partie. Il y a des années que je n'ai vu un bougeoir en cuivre. Des années.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Un presse-papier en verre. Au milieu, c'est du corail.
Oui.
On l'a fabriqué il y a au moins 100 ans.
C'est un objet superbe.
Oui. Mais peu de gens oseraient le dire. Tout ce qui est ancien, tout ce qui est beau est aussi vaguement suspect. Et si par hasard vous désiriez l'acheter, il ne vous coûterait que 4 dollars.
Je vais réfléchir.
J'ai une autre pièce en haut, avec des meubles qui pourraient vous intéresser. Suivez-moi, je vais vous les montrer. Nous avons vécu ici avec ma femme jusqu'à sa mort. Maintenant, je vends le mobilier, petit à petit.
Mais il n'y a pas de télécran ?
Personne ne s'occupe de moi. Et voilà une jolie table pliante. Ou si par hasard vous intéressiez au vieux tableau, c'est une gravure sur acier.
Ah, oui, je connais cet édifice. Il est en ruine, près du palais de justice.
C'est exact. On l'a bombardé il y a pas mal d'années. À un moment, c'était une église. On l'appelait l'église Saint-Clément. Citron et orange, les cloches de Saint-Clément parlent aux anges.
Comment ?
C'est une vieille chanson. Comment était-ce donc ? Ah, je sais. Tu me dois 40 livres, les cloches de Saint-Martin. Chante pour les gens ivres. C'est bête, n'est-ce pas?
J'aimerais bien connaître la suite de cette chanson.
J'essaierai de la retrouver.
Je reviendrai vous voir. Bientôt.
J'en serai ravi. Je m'appelle Charrington. Harold Charrington.
Moi, Winston Smith. Au revoir.
Au revoir.
J'ai décidé d'acheter la gravure de Saint-Clément et d'extraire le reste de la chanson de la mémoire de Harold Charrington. Même le projet fou de louer la chambre du premier, ce lieu béni, sans télécran, m'a traversé l'esprit.
Camarades, Préparez-vous aux 2 minutes de haine. Vous allez entendre Goldstein, le traître, le renégat. Tous les crimes contre le parti découlent de son enseignement. La police de la pensée démasque tous les jours des espions et des saboteurs obéissant à ses ordres. Vous lui exprimerez votre haine et votre profond dégoût.
C'est Goldstein qui vous parle. Emma, Big Brother, je dénonce la dictature du parti. J'exige une paix immédiate avec l'Eurasia. La révolution a été trahie. Rejoignez le réseau clandestin qui prépare la chute du régime. Rejoignez la fraternité.
Ne craignez rien, camarades. Big Brother vous protège. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force.
On ne peut pas dissimuler éternellement le crime par la pensée. Peu importe si je continue ou arrête mon journal. De toute façon, la police de la pensée ne me rattrape pas. Les arrestations ont toujours lieu la nuit. Réveil en sursaut, mains rudes qui secouent l'épaule, lumières qui éblouissent, cercle de visage dur autour du lit. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de procès. Les gens disparaissent. Leurs noms sont supprimés des registres. Tout souvenir de leurs actes est effacé. Leur existence est d'abord niée, puis oubliée. Ils sont abolis, rendus au néant, vaporisés, comme on dit. Ils me fusilleront. Ils me troueront la nuque. Il vise toujours la nuque.
Camarade Smith, pourriez-vous jeter un coup d'œil sur mon évier? Il est bouché. Naturellement, si je vous le demande, c'est que Tom n'est pas là autrement.
Bien entendu. Je viens, Madame Parson.
Ce sont les enfants. Ils ne sont pas sortis aujourd'hui. Je suis désolée de vous déranger.
Oh. Avez-vous une clé anglaise?
Une clé anglaise? Je ne sais pas. Peut-être les enfants.
Oh les mains! Vous êtes un traître. Vous trahissez par la pensée. Vous êtes un espion.
Je vais vous fusiller, vous vaporiser, vous envoyer dans une mine de sel.
Aïe!
Vous avez mal?
Eh non, pas vraiment.
Ils sont tellement bruyants. Ils sont désappointés parce qu'ils ne peuvent pas aller voir la pendaison. Je suis trop occupée pour les y conduire et Tom rentre trop tard de son travail.
Pourquoi on ne peut pas aller voir la pendaison?
Je veux voir la pendaison. Je veux voir la pendaison.
Tu iras la semaine prochaine.
Ah, voilà, c'est réparé. Au revoir, Madame Parsons.
Oh, merci beaucoup, vraiment. Je suis confuse, merci.
Groupe 30 à 40. Groupe 30 à 40. L'heure de la culture physique. En place, s'il vous plaît, les 30 à 40. Flexion des bras. En même temps que moi. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ne toussez pas, Smith W. Allons, camarade, un peu d'énergie. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Repos. Asseyez-vous et respirez en rythme.
Hier, j'ai rencontré Catherine, ma femme. Nous sommes séparés depuis 5 ans. Je la détestais. J'avais même envie de la tuer. Elle désignait toujours nos rapports sexuels par la même phrase. Notre devoir envers le parti. Dès que je la touchais, elle semblait se raidir. Pour les orthodoxes, le seul but du mariage est de faire naître des enfants pour le service du parti. L'acte sexuel est considéré comme une opération plutôt dégoûtante, mais inévitable. Catherine n'a pas une idée dans la tête qui ne soit un slogan. Les femmes du parti sont toutes semblables. Elles n'ont pas de désir, ni de sentiment.
Voyons maintenant quels sont ceux d'entre vous qui peuvent toucher leurs orteils. Droit sur les hanches, camarades. Un, deux. Un, deux. Smith. 6079 Smith W. Oui, vous-même. Baissez-vous plus bas. Vous pouvez faire mieux que ça. Plus bas. Plus bas. Regardez-moi. Voilà comment il faut exécuter ce mouvement. Un, deux. Un, deux. J'ai 39 ans et 4 enfants. Vous pouvez tous y arriver, si vous le voulez. N'importe qui, au-dessous de 40 ans, est parfaitement capable de toucher ses orteils. Nous n'avons pas le privilège de nous battre sur le front, mais nous pouvons au moins nous garder en forme. Pensez à nos garçons sur le front de Malabar. Pensez aux marins des forteresses flottantes. Imaginez ce qu'ils doivent endurer, eux. Essayez encore. Un, deux. Un, deux. Un, deux. C'est mieux, camarade. Beaucoup mieux. Terminez la culture physique. Bientôt l'heure de se rendre à la cantine. Dépêchez-vous, camarade.
Winston Smith, vous êtes l'homme que je cherchais. Pouvez-vous me céder une lame de rasoir?
Non, j'en ai cherché partout, mais il n'en existe plus. Depuis 6 semaines, je me sers de la même.
Mais tant pis. Assisterez-vous tantôt à la pendaison des prisonniers?
Oh, j'ai trop de travail. Je verrai ça au télécran, je pense.
Ah, ce n'est pas la même chose. J'espère qu'on ne gâchera pas le spectacle en attachant les pieds. J'aime les voir frapper du pied. J'aime surtout, à la fin, voir leur langue se projeter toute droite et bleue, d'un bleu éclatant.
Au suivant, s'il vous plaît, pressons.
Il y a une table là-bas sous le télécran. Nous prendrons le gin en passant.
La femme blonde, assise à la table à côté.
Ah, je la connais.
Est-ce qu'elle travaille pour la police de la pensée?
Oh non. Elle recherche dans les journaux anciens les noms des gens qui ont été vaporisés et qu'il faut rayer. Et vous? Qu'est-ce que vous faites en ce moment?
Je rectifie les articles du Times. Uh-huh.
Quel numéro?
Celui du 11 octobre dernier.
Beaucoup de changements?
Oh, pas tellement. Bon, les prévisions du 6e trimestre du 9e plan ne correspondent pas à l'état de la production. Et le ministère de l'Abondance avait fait la promesse de ne pas réduire la ration de chocolat durant l'année 1984. Bon, la semaine prochaine, nous pourrons réimprimer.
Vous refaites ce numéro pour la première fois?
Non,
Nous sommes à la 12e réimpression. La ligne politique a souvent varié ces mois derniers.
Ça doit vous amuser de mettre ainsi à jour le passé.
Oui. Mais je préfère écrire des livres. Des poèmes. Et le dictionnaire avance-t-il ?
Lentement. Je suis aux adjectifs. C'est fascinant. Nous donnons à la novlangue sa forme définitive. Celle qu'elle aura quand personne ne parlera plus d'autres langues. Vous allez être obligé de la réapprendre entièrement.
Oui, votre principal travail consiste, je pense, à inventer les mots nouveaux.
Oh, pas du tout. Nous détruisons, au contraire, des mots chaque jour. Des vingtaines, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. La nouvelle édition ne contiendra pas un seul mot qui puisse vieillir avant l'année 2050. C'est une belle chose, la destruction des mots.
Est-ce dans les verbes et les adjectifs qu'il y a le plus de déchets ?
Oui, oui, mais on peut se débarrasser aussi de beaucoup de noms communs, de synonymes, d'antonymes. Après tout, pourquoi conserver un mot qui n'est que le contraire d'un autre ? Prenez par exemple « bon ». Quelle nécessité y a-t-il à garder « mauvais » ? Non « bon » fait tout aussi bien l'affaire, mieux même, car il est l'opposé exact de « bon ». Et si on désire un mot plus fort que bon, pourquoi se servir d'une chaîne de mots vagues, inutiles, comme excellent ou splendide ? Plus bon englobe toutes ces expressions. Et si on cherche un mot encore plus fort, il y a double plus bon. Dans la version définitive de la novlangue, la notion du bon et du mauvais sera couverte par 6 mots seulement, découlant tous du même mot. Comprenez-vous, Winston ? L'originalité de cela ? Évidemment, l'idée vient de Big Prose.
Mais c'est une question d'habitude. Hein,
je crains que vous n'appréciez pas réellement la novlangue, Winston. Oh. Même quand vous écrivez, vous pensez en ancilangue. J'ai lu quelques-uns de vos articles dans le Times. Ils sont intéressants, mais ce sont des traductions. Au fond, vous auriez préféré rester fidèle à l'ancien langage, à son imprécision. À ces nuances inutiles. Vous ne saisissez pas la beauté qu'il y a dans la destruction des mots. Savez-vous que la novlangue est la seule langue dont le vocabulaire diminue chaque année ?
Je l'ignorais.
Ne voyez-vous pas que le véritable but de la novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée. Car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts seront réduits à un seul mot, dont le sens sera rigoureusement délimité. Chaque année, de moins en moins de mots, et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Il n'y a pas, c'est certain, de raison ou d'excuse au crime par la pensée. C'est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise. Mais même cette discipline deviendra inutile. La révolution sera achevée quand le langage sera parfait. Vous est-il arrivé de penser, Winston, qu'en 2050 au plus tard, il n'y aura plus un seul être humain capable de comprendre une conversation comme la nôtre ?
Sauf les prolétaires.
Les prolétaires ne sont pas des êtres humains. Vers 2050, plus tôt probablement, toute connaissance de l'ancienne langue aura disparu. Toute littérature du passé aura été détruite. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron n'existeront plus qu'en version novlangue. Celui qui contrôle le passé contrôle le présent.
Oui, et celui qui contrôle le présent contrôle l'avenir.
Vous verrez, même la littérature du parti évoluera. Même les slogans changeront. Comment pourrait-il y avoir une devise comme « la liberté, c'est l'esclavage » alors que le concept même de la liberté aura été aboli ? Le climat de la pensée sera autre. En fait, il n'y aura plus de pensée, telle que nous l'entendons aujourd'hui. Orthodoxie signifie non-pensée. L'orthodoxie, c'est l'inconscience.
Et vous êtes très clairvoyant.
Ah, regardez, la femme blonde est tombée avec son plateau.
Je vais l'aider à se relever. Vous êtes blessée ?
Non. Je vous aime. Soyez à 7h au square de la Victoire. Vous ne me regarderez pas. Vous vous tiendrez simplement près de moi.
Entendu.
Retournez immédiatement à votre table.
Merci, camarade.
De rien.
Elle s'est cassée quelque chose ?
Non, une simple foulure.
Voilà, Parsons.
Bonjour, camarade. Smith, je suis content de vous rencontrer. À cause de la cotisation.
Eh, quelle cotisation ?
Pas pour la semaine de la haine. On collecte maison par maison et je suis le trésorier de notre immeuble. Nous faisons un effort prodigieux. Nous allons en mettre plein la vue. Des drapeaux partout. Vous m'avez promis $2.
Ah oui. Les voilà.
Merci. À propos, ma femme m'a dit que mon petit coquin de garçon a lâché sur vous un coup de pistolet. Ah, je l'ai compté. Je l'ai menacé de lui enlever son engin s'il recommençait.
Je crois qu'il était très déçu de ne pas aller à la pendaison.
Oui, il a bon esprit, n'est-ce pas ? Ah, des petits galopins bien turbulents tous les deux, mais vous parlez d'une ardeur. Ah, il ne pense qu'aux espions. Et à la guerre aussi, naturellement. Savez-vous ce qu'a fait ma petite fille samedi dernier, quand elle était avec sa troupe sur la route de Chester ? Elle et deux autres petites se sont échappées pendant la marche et elles ont passé tout l'après-midi à suivre un type. Pendant des heures, elles l'ont pas quitté. Et arrivées à Emmersham, elles l'ont fait arrêter par une patrouille.
Pourquoi ?
La gosse était convaincue qu'il était une sorte d'agent de l'ennemi. Il aurait pu être parachuté, par exemple. Elle avait remarqué qu'il portait de drôles de chaussures. Elle dit qu'elle n'en avait jamais vu de pareil. Ah, il y avait des chances qu'il soit un étranger. Pas mal pour une gamine de 7 ans, non ?
Mais qu'est-il arrivé à l'homme ?
Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne serais pas du tout surpris si... Nous sommes en guerre.
Attention, attention. Camarades, une grande nouvelle. Nous avons gagné la bataille de la production. Selon les statistiques, le standard de vie a augmenté de 20% sur celui de l'année dernière. Il y a eu ce matin dans tout l'Océania des manifestations spontanées. Les travailleurs sont sortis des usines et des bureaux. Ils ont défilé avec des bannières sur les avenues. Ils criaient leur gratitude à Big Brother pour la vie nouvelle et heureuse que sa sage direction nous a procurée. Vive Big Brother !
Le ministère de l'Abondance a fait du bon travail cette année.
Certainement.
Allons, au travail.
Continuez à marcher. Vous m'entendez ?
Oui.
Vous êtes libre dimanche après-midi ?
Oui.
Alors, écoutez bien. Prenez le train à la gare de Paddington. Descendez à la 5e station. En sortant de la gare, tournez à gauche. Marchez sur la route pendant 2 km. Et vous verrez un chemin, à travers champs, qui vous mènera à un buisson. Je vous y retrouverai. Pourrez-vous vous souvenir de tout cela ?
Oui. À quelle heure ?
Environ 3 heures. Peut-être vous attendrez un peu. Moi, je viendrai par un autre chemin. Êtes-vous sûr de tout vous rappeler ?
Oui.
Bon. Maintenant, éloignez-vous aussi vite que possible.
Bonjour.
Venez.
Je ne voulais rien dire dans ce sentier au cas où il y aurait un micro. Je ne le pense pas, mais on ne sait jamais. Un de ces cochons pourrait reconnaître nos voix. Ici, nous sommes en sécurité.
Vous en êtes sûr ?
Oh oui, il n'y a rien d'assez épais pour cacher un micro. Et je suis déjà venue ici. Asseyons-nous.
Regardez-moi. Je viens de m'apercevoir que je ne savais même pas quelle est la couleur de vos yeux.
Ils sont bruns et j'ai les cils noirs. Et j'ai 32 ans. Je vis dans un foyer avec 40 autres femmes. toujours dans l'odeur des femmes. C'est affreux.
Moi, j'ai 40 ans. J'ai une femme, nous sommes séparés, mais elle ne veut pas divorcer. J'ai des varices et j'ai 5 fausses dents.
Cela m'est parfaitement égal. Embrassez-moi.
Oh, je suis bien près de vous. Mais je suis tellement habitué à vivre sans femme.
Oh, ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas pressés, nous avons toute la vie. N'est-ce pas une splendide cachette? Je l'ai découverte un jour tout à fait par hasard. S'il venait quelqu'un, nous l'entendrions de loin.
Comment vous appelez-vous?
Julia. Moi, je connais votre nom. C'est Winston.
Oui.
Winston Smith.
Oui. Comment l'avez-vous su?
Je crois, chérie, que je suis plus habile que vous pour découvrir des choses. Dites-moi, que pensiez-vous de moi avant le jour où je vous ai parlé?
Je m'imaginais que vous travailliez pour la police de la pensée.
Oh, vraiment?
Ah oui, vous êtes jeune, saine, alors
vous
je croyais que...
Vous pensiez que j'étais un membre loyal du parti, bannière, slogan, jeu, sortie collective, toute la sauce, quoi. Et vous pensiez que si j'en avais l'occasion, je vous dénoncerais comme criminel par la pensée pour vous faire vaporiser.
Oui.
Vous êtes bête. Et aveugle. Tenez, j'ai apporté un peu de chocolat.
Oh. Mais où avez-vous eu ça?
Au marché noir.
Vous êtes jeune. Vous avez presque 10 ans de moins que moi. Comment pouvez-vous trouver séduisant un vieil homme comme moi?
C'est quelque chose dans votre visage. Je peux me tromper, mais je crois que... Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez contre eux.
Mais vous ne vous êtes pas trompé. N'y a-t-il pas un ruisseau quelque part près d'ici?
Si, au bord du champ voisin. Il y a des poissons dedans. De grands et gros poissons. On les voit nager.
C'est presque le pays doré.
Le pays doré?
Oh, un paysage que j'ai parfois vu en rêve.
Écoutez.
Pour qui chante-t-il? Aucun compagnon, aucun rival ne l'écoute. Qu'est-ce qu'il pousse à se poser au bord d'un bois solitaire et à verser sa musique dans le néant? Viens plus près.
Je t'aime.
Répète.
Je t'aime. Je t'aime, je t'aime.
Oh, je suis heureux.
Il chante toujours. Il doit être amoureux.
As-tu déjà aimé? Enfin, je veux dire, fait l'amour.
Bien sûr, des centaines de fois.
Hein?
Non. Mettons des vingtaines de fois.
Avec des membres du parti?
Oui, toujours avec des membres du parti.
Du parti intérieur?
Oh non, pas avec ces salauds. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui leur manque. Ils se font passer pour des petits saints, mais...
Je voudrais que tu l'aies fait des centaines, des milliers de fois. Toute corruption me donne un espoir fou. Et qui sait, le parti est peut-être pourri. Peut-être que son culte de l'abnégation, de l'énergie, n'est qu'une comédie destinée à cacher la pourriture.
Si je pouvais leur donner à tous la lèpre, la syphilis, comme je serais heureuse, n'importe quoi qu'il les pourrisse.
Écoute, plus tu as eu d'hommes, plus je t'aime. Comprends-tu?
Oui, parfaitement.
Je hais la pureté. Je hais la bonté. Je ne veux d'aucune vertu, nulle part. Aimes-tu l'amour? Hein? Non, je veux pas parler de toi et de moi. Je veux dire l'acte lui-même.
J'adore ça.
Ah, l'instinct animal, le désir simple, c'est la force qui mettra le parti en pièces. Nos embrassements sont des batailles. Notre jouissance est une victoire, un coup porté au parti. C'est un acte politique.
Tu as raison. Quand on fait l'amour, on se sent heureux. On se moque du reste. Voilà ce qu'ils ne peuvent pas admettre. Car si on était heureux, vraiment, pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother, les plans de 3 ans, les 2 minutes de haine et tout le reste de leur foutu balivernes?
Oui, 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 oui. Il y a un lien direct entre la chasteté et l'orthodoxie politique.
L'impulsion sexuelle est dangereuse pour le parti. Il la détourne à son profit. Pour l'instinct familial, c'est pareil. On pousse systématiquement les enfants à espionner leurs parents. Nous aussi, nous sommes entourés d'espions. Il faut que tu saches qu'au jeu que nous jouons, nous ne pouvons pas gagner. Nous sommes déjà des morts.
Nous ne sommes pas encore morts.
Pas physiquement. Non, nous en avons pour 6 mois, peut-être 1 an. Mais au fond, nous sommes déjà morts.
Mais quelle blague! Nous sommes vivants et profitons-en. N'aimes-tu pas sentir que ça, c'est ta main, ça, ta jambe, et mon corps, mes seins? Tu aimes les toucher. Alors cesse de penser à la mort. Parlons de choses sérieuses, il faut fixer notre prochain rendez-vous. Nous pourrons revenir ici, mais cette fois tu t'y rendras par un autre chemin. J'ai tout combiné.
Mais je crois que je pourrais louer une chambre dans le quartier des prolétaires. Une chambre sans télécran.
Oh, ça serait merveilleux.
J'essaierai ce soir. Si ça marche, je te donnerai l'adresse demain à la cantine.
Très bien. Maintenant, il faut que je parte. Regarde si je n'ai pas de brindilles dans les cheveux, non?
Non, non.
Bon. Alors, au revoir, mon amour. Au revoir.
Je continue mon journal dans la chambre de Monsieur Charrington. Bien sûr, c'est une folie de l'avoir loué. Nous savons, Julia et moi, que nous finirons dans les caves du ministère de l'amour. C'est inévitable. D'ailleurs, je suis décidé à prendre d'autres risques. Je parlerai de nouveau à O'Brien. Bien qu'il soit le secrétaire du parti intérieur, j'ai l'impression, je ne sais pourquoi, qu'il pense comme moi.
Regarde ce que j'apporte. Regarde.
Ce n'est pas du sucre.
Du vrai sucre. Oh. Et du pain blanc, pas cette horrible substance. Et un petit pot de confiture. Mais c'est de ça que je suis vraiment fière. J'ai dû l'envelopper dans un bout de toile parce que l'odeur...
Du vrai café?
1 kilo du café du parti intérieur.
Mais comment as-tu fait?
Tu sais, les garçons, les serviteurs chipent des choses et les vendent. Regarde, j'ai aussi du thé.
Du vrai thé? Pas des feuilles de mûre?
Il y a eu un arrivage. Ils ont pris l'Inde ou quelque autre pays. Mais écoute, mon chéri, je voudrais que tu me tournes le dos pendant 1 minute.
Hein?
Va t'asseoir sur le lit et ne te retourne pas avant que je ne te le dise. Maintenant, tu peux te retourner.
Oh. Oh, tu t'es maquillée. Comme c'est beau. Et tu as mis du parfum aussi.
Oui, chérie. Et sais-tu ce que je vais faire la prochaine fois? Je vais me procurer une vraie robe de femme à la place de ce maudit pantalon. J'aurai des bas de soie et des chaussures à talons hauts. Dans cette pièce, je serai une femme, pas une camarade du parti. Ce lit doit être plein de punaises, mais tant pis. Attends.
Hein?
Je vais me lever et je vais faire du café. Nous avons 1 heure, non? On éteint à quelle heure chez toi?
À 23h30.
Chez moi, à 23h. Mais il faut rentrer plus tôt. Hé! Hey! Dehors, sale bête!
Qu'est-ce que c'est?
Un rat. J'ai vu son museau. Il y a un trou, là.
Mais je lui ai fait peur.
Des rats dans cette chambre?
Oh, il y en a partout. Nous en avons même dans la cuisine, vous voyez. Dans certains quartiers, une fourmi. Non, mais c'est eux qui attaquent les enfants. Il y a des rues où les femmes n'osent pas laisser un bébé tout seul pendant 2 minutes. Ce sont des grands brins. Et l'horrible, c'est que ces sales bêtes...
Ah, tais-toi!
Chérie, tu es devenu tout pâle. Qu'est-ce qu'il y a? Les rats te donnent mal au cœur?
Ah, de toutes les horreurs du monde, les rats! Excuse-moi, ça passera. Je déteste les rats, voilà tout.
Ne te tourmente pas. Ces sales brutes n'entreront plus ici. Je boucherai le trou avec un bout de toile et la prochaine fois, j'apporterai du plâtre. Et je le fermerai proprement. Tu verras. C'est quoi, ça?
Ça, c'est un presse-papier en verre. Oui, un petit morceau d'histoire qu'on a oublié de détruire. Un message d'il y a 100 ans.
Et le tableau, là-haut, il est vieux d'un siècle, lui aussi.
Oh, il a peut-être 200 ans. Mais il est impossible de savoir l'âge exact de quoi que ce soit.
Qu'est-ce qu'il représente?
Une église. Citrons et oranges, citrons et oranges, les cloches de Saint-Martin parlent aux anges.
Tu me dois 40 livres,
40 livres. Les cloches de Saint-Martin chantent aux gens ivres. Qui t'a appris ça?
Mon grand-père, quand j'étais toute petite. Il a été vaporisé quand j'avais 8 ans. Je me demande ce que c'était un citron. Tu sais, j'ai vu des oranges. C'est une sorte de fruit rond et jaune avec une peau épaisse.
Alors, je me souviens très bien des citrons. Ils étaient très connus vers 1960, au moment où nous étions en guerre avec l'Estasia.
Je croyais que nous avions toujours été en guerre avec l'Eurasia.
Ah non, ah non, ah non, ah non, rappelle-toi. Il ne faut pas que tu croies à leurs mensonges. Seule notre mémoire peut nous sauver. On a détruit ou falsifié tous les documents. Rien n'existe qu'un éternel présent dans lequel le parti a toujours raison. Oh, je sais bien sûr que le passé est falsifié, mais il me serait impossible de le prouver, bien que j'ai personnellement procédé à des falsifications. La chose faite, aucune preuve ne subsiste. La seule preuve est à l'intérieur de mon cerveau. De toute ma vie, il ne m'est arrivé qu'une seule fois de tenir en main une preuve réelle et concrète. Un bout de papier.
À quoi ça t'a avancé?
À rien. Parce que j'ai eu peur. Et je l'ai jeté. Mais aujourd'hui, si le cas se reproduisait, je le garderais, le papier.
Eh bien, pas moi. Je suis prête à courir des risques, mais pour quelque chose qui en vaut la peine. Pas pour des bouts de vieux journaux. Qu'en aurais-tu fait si tu l'avais gardé?
Mais c'était une preuve qui aurait pu ébranler certaines gens. Si j'avais osé la leur montrer. Je ne pense pas que nous puissions changer quoi que ce soit pendant notre existence. Mais on peut imaginer que de petits nœuds de résistance se forment, ça et là. De petits groupes qui se ligueraient et dont le nombre augmenterait peu à peu. Ils pourraient même laisser après eux quelques documents pour que la génération suivante continue leur action.
Ma génération suivante ne m'intéresse pas, chérie. Ce qui m'intéresse, c'est nous. Crois-moi, il faut hurler avec les loups. C'est la seule manière d'être tranquille. Dans les processions, je porte toujours un bout de bannière. Je parais toujours de bonne humeur et je n'esquive aucune corvée. Je sais à quel moment applaudir, à quel moment pousser des huées, et c'est tout ce qu'il est nécessaire de savoir. Mais il est facile de présenter l'apparence de l'orthodoxie sans avoir la moindre idée de ce qu'elle signifie.
Eh oui, ce sont des gens incapables de la comprendre qui acceptent le plus facilement la vision du monde, du parti. On peut leur faire admettre les violations les plus flagrantes de la réalité parce qu'ils ne saisissent jamais, jamais, entièrement, l'énormité de ce qu'il leur est demandé.
Ne te fâche pas. Chérie, moi je ne veux qu'une chose, te faire plaisir. Tu veux aller voir O'Brien? Eh bien, allons-y. Rendez-vous demain soir à 7 heures devant chez lui.
Merci, Julia. Je suis sûr qu'il faut tenter quelque chose.
Je te crois, mon amour. Je ferai tout ce que tu voudras. C'est triste, mais je dois partir. Toi, reste encore un peu. Ne me suis pas trop vite. À demain.
À demain.
Demain, nous irons voir O'Brien. Julia a l'habitude de juger les gens d'après leur visage. Il lui semble donc assez naturel que je puisse croire en la loyauté d'O'Brien, à cause d'un seul regard. Depuis longtemps, je me sens vivement attiré par cet homme. Quelque chose dans ses yeux me fait croire qu'il n'a pas la foi, malgré la haute fonction qu'il occupe. Avant-hier, je me suis trouvé face à face avec lui dans le couloir du ministère. Il posa sa main sur mon bras.
J'attendais une occasion pour vous parler. J'ai lu l'autre jour un de vos articles en novlangue dans le Times. Vous vous intéressez en érudit à la novlangue, je crois.
Oh, je ne suis qu'un amateur. Ce n'est pas ma partie.
Mais vous écrivez très élégamment. Je ne suis pas seul à le penser. À part ça, je voulais vous dire que dans votre article, vous avez employé deux mots qui sont périmés. Avez-vous lu la 10e édition du dictionnaire novlangue?
Non. Non, je ne savais pas qu'elle eût déjà paru. Nous nous servons encore au département des archives de la 9e édition.
Quelques exemplaires ont déjà été mis en circulation. Je vous en enverrai un. Hélas, j'oublie toujours ce genre de choses. Il vaudrait mieux que vous passiez le prendre à mon appartement quand ça vous conviendra. Attendez, je vais vous donner mon adresse. Je suis d'habitude chez moi dans la soirée. Si je n'y étais pas, mon domestique vous remettrait le dictionnaire. À bientôt.
Dès cet instant, je savais que tôt ou tard, je répondrais à l'invitation d'O'Brien. Ce qui arrive est le résultat d'un processus qui a commencé depuis des années. Le premier pas avait été une pensée secrète. Le deuxième, l'ouverture de mon journal. Je suis passé des pensées aux mots et des mots aux actes. Le dernier pas sera quelque chose qui aura lieu au ministère de l'amour. Je l'ai accepté. La fin est impliquée dans le commencement. Mais c'est effrayant. C'est comme un avant-goût de la mort. C'est comme d'être un peu moins vivant. Même pendant que je parlais à O'Brien, j'avais la sensation de marcher dans l'humidité d'une tombe.
On ne m'a pas suivi, je ne crois pas.
Non. Sonne.
Entrez, par ici.
Excusez-moi un instant, j'ai un message urgent à transmettre. Item 1, 5, 7, entièrement approuvé. Stop. Suggestion contenue, item 6, absolument ridicule. Frisant crime pensé. Annulé. Stop. Interrompre construction. D'abord, avoir estimation plus complète machinerie aérienne. Stop. Fin message.
Le télécran.
Vous pouvez le fermer ?
Oui, nous pouvons le fermer. Nous avons ce privilège. Voulez-vous commencer ou dois-je le faire?
Cette chose est-elle réellement fermée?
Oui, tout est fermé, nous sommes seuls.
Nous sommes venus ici parce que nous croyons qu'il existe une organisation qui travaille contre le parti. Nous désirons nous joindre à cette organisation et travailler pour elle. Nous sommes des criminels par la pensée. Nous commettons l'adultère. Je vous dis tout cela parce que nous voulons nous mettre à votre merci. Si vous désirez que nous nous accusions d'une autre manière, nous sommes prêts.
Vous pouvez continuer, Martin est des nôtres. Par ici, les verres, Martin. Déposez-les sur la table ronde. Assez de chaises. Alors, nous ferions aussi bien de nous asseoir confortablement pour parler. Apportez une chaise pour vous, Martin. Nous allons parler affaires. Vous pouvez, pendant 10 minutes, cesser d'être un domestique. Cela s'appelle du vin. Vous le connaissez par les livres, sans doute. Je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup qui aillent au parti extérieur. Je pense qu'il est bon de commencer par porter un toast à notre chef, Emmanuel Goldstein.
Il existe donc réellement ?
Oui, il existe. Il vit où ? Je ne sais pas.
Et la fraternité ? N'est-elle pas simplement une invention de la police de la pensée ?
Non. La fraternité existe. Mais vous n'en apprendrez jamais beaucoup plus, sinon qu'elle existe et que vous en faites partie. J'y reviendrai tout à l'heure. Il est imprudent, même pour les membres du parti intérieur, de fermer le télécran plus d'une demi-heure. Et vous n'auriez pas dû venir ensemble. Il vous faudra partir séparément. Vous, camarade, vous allez partir la première. Nous avons environ 20 minutes à notre disposition. Vous comprendrez que je doive commencer par vous poser certaines questions. Qu'avez-vous l'intention de faire ?
Tout ce dont nous sommes capables.
Êtes-vous prêt à donner votre vie ?
Oui.
Êtes-vous prêt à tuer ?
Oui.
À commettre des actes de sabotage pouvant entraîner la mort de centaines d'innocents ?
Oui.
À trahir votre pays auprès de puissances étrangères ?
Oui.
Êtes-vous prêt à tromper, à faire des faux, à extorquer, à corrompre les esprits des enfants, à distribuer des drogues qui font naître des habitudes, à encourager la prostitution, à propager des maladies vénériennes, à faire tout ce qui est susceptible de démoraliser le parti et de l'affaiblir ?
Oui.
Si notre intérêt l'exigeait, jetteriez-vous de l'acide sulfurique au visage d'un enfant ?
Oui.
Êtes-vous prêt à perdre votre identité et à vivre le reste de votre existence comme garçon de café ou docker ?
Oui.
Êtes-vous prêt à vous suicider si nous vous l'ordonnons et quand nous vous l'ordonnerons ?
Oui.
Êtes-vous prêt tous deux à vous séparer et à ne jamais vous revoir ?
Non.
Non.
Vous faites bien de me le dire. Il est nécessaire que nous sachions tout. Julia, comprenez-vous que, même s'il survit, ce sera peut-être sous l'aspect d'une personne différente. Nous pouvons être obligés de lui donner une autre identité, son visage, ses gestes, la forme de ses mains, la couleur de ses yeux, même sa voix, seront différents. Et vous-même, pourriez devenir une personne différente. Nos chirurgiens peuvent changer les gens et les rendre méconnaissables. Il arrive que ce soit nécessaire. Nous faisons même parfois l'amputation d'un membre.
Je l'accepte.
Bien, ainsi c'est réglé. Martin, vous feriez mieux de retourner à l'office. Je tournerai le bouton du télécran dans un quart d'heure. Regardez bien les visages de ses camarades avant de vous en aller. Vous les reverrez. Moi, peut-être pas. Vous lutterez dans l'obscurité. Vous serez toujours dans l'obscurité. Vous recevrez des ordres et y obéirez sans savoir pourquoi. Je vous enverrai un livre. Vous y étudierez la vraie nature de la société dans laquelle nous vivons et la tactique par laquelle nous la détruirons. Quand vous aurez lu ce livre, vous serez totalement membre de la fraternité.
Mais entre les fins générales pour lesquelles nous luttons et les devoirs immédiats, vous ne saurez jamais rien. Je vous dis que la fraternité existe, mais je ne peux pas vous dire si elle comprend une centaine de membres ou 10 millions. Pour ce que vous en connaîtrez personnellement, vous ne serez jamais capable de dire si elle comprend même une douzaine de membres. Vous aurez des contacts avec 3 ou 4 personnes qui seront remplacées de temps en temps au fur et à mesure de leur disparition. Comme ceci est votre premier contact, il sera maintenu. Les ordres que vous recevrez viendront de moi. Si nous jugeons nécessaire de communiquer avec vous, ce sera par l'entremise de Martin. Quand vous serez finalement pris, vous vous confesserez. C'est inévitable. Mais mis à part vos propres actes, vous aurez très peu à confesser. Vous ne pourrez trahir qu'une poignée de gens sans importance. Vous ne me trahirez probablement même pas. D'ici là, je serai peut-être mort, ou je serai devenu une personne différente, avec un visage différent. Vous avez probablement imaginé une puissante organisation clandestine de conspirateurs qui se rencontrent secrètement dans des caves, qui griffonnent des messages sur les murs, qui se reconnaissent grâce à des mots de passe ou des mouvements particuliers de la main. Il n'existe rien de ce genre. Les membres de la fraternité n'ont aucun moyen de se reconnaître et un membre ne peut connaître l'identité que de très peu d'autres. Goldstein lui-même, s'il tombait entre les mains de la police de la pensée, ne pourrait lui donner une liste complète des membres. Une telle liste n'existe pas. La fraternité ne peut être anéantie parce qu'elle n'est pas une organisation dans le sens ordinaire du terme. Rien ne relie ses membres, sinon une idée qui est indestructible. Vous n'aurez pour vous soutenir que cette idée. Vous n'aurez aucun camarade et aucun encouragement. À la fin, quand vous serez pris, vous ne recevrez aucune aide. Nous n'aidons jamais nos membres, jamais. S'il est absolument nécessaire que quelqu'un garde le silence, nous lui faisons parvenir dans sa cellule une lame de rasoir. Il faudra vous habituer à vivre sans espoir. Vous travaillerez un bout de temps, vous serez pris, vous vous confesserez et vous mourrez. Nous sommes des morts. Notre seule vie réelle et dans l'avenir, nous y prendrons part sous la forme d'une poignée de poussière et d'esquilles d'os. Mais à quelle distance de nous se trouve ce futur? Impossible de le savoir. À 1 millier d'années, peut-être. Actuellement, rien n'est possible sans diffuser nos connaissances d'individu à individu, de génération à génération. En face de la police de la pensée, il n'y a pas d'autre voie. Il est presque temps que vous partiez, Julia. Attendez. Le carafon est encore à moitié plein. À quoi devons-nous boire, cette fois? À la victoire de la pensée libre? À la mort de Big Brother? À l'humanité? À l'avenir?
Au passé?
Oui. Le passé est plus important. Vive le passé.
Au revoir.
Au revoir. Je ne vous accompagne pas. Il y a des détails à régler. Je présume que vous avez un endroit où vous cacher.
J'ai loué une pièce au-dessus de la boutique d'un antiquaire.
Pour l'instant, cela suffira. Plus tard, nous arrangerons quelque chose d'autre pour vous. Il est important de changer fréquemment de cachette. Entre-temps, je vous enverrai un exemplaire du livre de Goldstein.
Faudra peut-être quelques jours pour que j'en obtienne un. Il existe peu d'exemplaires, comme vous pouvez l'imaginer. La police de la pensée les détruit presque aussi rapidement que nous pouvons les sortir. Cela importe peu. Le livre est indestructible. Si le dernier exemplaire était détruit, nous pourrions le reproduire presque mot pour mot. Apportez-vous une serviette au travail ?
En général, oui.
Comment est-elle ?
Noire, très usée, à deux courroies.
Noire, deux courroies, très usée. Bon. Prochainement, un des messages que l'on vous envoie le matin pour votre travail contiendra une coquille et vous aurez à réclamer une autre copie. Le lendemain, vous irez travailler sans serviette. À un moment de la journée, dans la rue, un homme vous touchera le bras et vous dira « Je crois que vous avez laissé tomber votre serviette. » Dans celle qu'il vous donnera, vous trouverez un exemplaire du livre de Goldstein. Vous me le retournerez avant 14 jours. Il reste encore 2 minutes avant l'heure de votre départ. Désirez-vous me poser une question ?
Connaissez-vous une vieille chanson qui commence par « Citrons et oranges, citrons et oranges, les cloches de Saint-Clément » Parle-t aux anges.
Tu me dois 40 livres, 40 livres. Les cloches de Saint-Martin parlent aux gens ivres. Quand me paieras-tu, disent les cloches de Montaigu, quand je serai riche, disent les cloches de Sorédiche.
Vous saviez les dernières lignes ?
Oui, je sais les dernières lignes. Et maintenant, il est temps que vous partiez. Nous nous rencontrerons encore, là où il n'y a plus de ténèbres.